My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Les amis, nous ne sommes plus très loin des 100 000 abonnés sur la chaîne. Ce serait sympa d'atteindre ce palier avant la fin du mois. Alors si vous souhaitez m'aider, n'hésitez pas à appuyer sur le petit bouton s'abonner. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais 2024 est bien parti pour ressembler à 2023. Après tout, Max Verstappen et Red Bull sont solidement en tête du classement. Ferrari et McLaren sont en embuscade, mais ce n'est pas suffisant. Tandis que Mercedes et Aston Martin se retrouvent un petit peu plus loin derrière. 2024 pourrait donc être une saison exaspérante pour beaucoup, j'en ai conscience, et je suis convaincu qu'un bon nombre d'entre vous attend avec impatience la saison 2026. 2026, c'est à ce moment-là qu'interviendront de nouvelles réglementations, qui pourraient complètement changer le visage du sport. C'est bien simple, les voitures ne feront pas la même taille, n'auront pas le même poids, pas le même groupe moteur, et pas les mêmes propriétés aérodynamiques. En somme, cela pourrait bouleverser l'ordre établi. 2026, ça arrive très vite, et je vais vous expliquer à quoi tout ça va ressembler. C'est parti! En premier lieu, pourquoi la F1 souhaite introduire de nouvelles réglementations cette saison-là? La question se pose, parce que mine de rien, ça ne fait pas si longtemps que ça que nous sommes dans cette ère actuelle, un peu plus de 2 ans. Donc pourquoi procéder à un changement dès 2026? Tout d'abord, il faut comprendre que la F1 souhaite faire évoluer ses réglementations pour des questions écologiques, technologiques et bien entendu sportives. Je vais commencer par parler de l'aspect écologique, parce que c'est ce qui ressort en premier lorsque la F1 explique l'origine des nouvelles réglementations. L'aspect écologique est au cœur des préoccupations de la Formule 1 depuis l'arrivée de Liberty Media, ou en tout cas, il est au centre de leur communication, avec comme fil rouge un objectif de neutralité carbone à partir de 2030. Ils ont d'ailleurs publié un rapport à ce sujet la semaine dernière, dans lequel ils expliquent leur progression en matière d'environnement en 2023. On y apprend par exemple qu'ils sont parvenus à réduire leurs émissions carbone de leurs véhicules de 83% sur les courses européennes, ou encore que 75% des promoteurs de Grand Prix ont fait usage d'énergie renouvelable. Alors il y a beaucoup de critiques à faire sur leur impact environnemental. Très sincèrement, je ne suis pas suffisamment spécialiste du sujet pour me risquer à ça. Mais une grosse partie de leur stratégie est basée sur la compensation d'émissions carbone, et non pas de réduction, ce qui n'est pas exactement la même chose. Quoi qu'il en soit, les préoccupations environnementales sont extrêmement importantes pour leur image, et ça s'en ressent dans les nouvelles réglementations. Le passage à un carburant 100% durable est la modification la plus significative. Ce carburant sera fabriqué sans utiliser d'énergie fossile, en se basant sur des technologies déjà existantes dans d'autres disciplines automobiles, le tout en partenariat avec Aramco. En Formule 2 et en Formule 3 l'an dernier, 55% du carburant utilisé comprenait des composants durables, ce qui montre qu'il se rapproche de cet objectif petit à petit. Concrètement, l'utilisation de ce nouveau carburant permettra de réduire les émissions de CO2 pendant les courses, mais aussi de servir de vitrine en quelque sorte pour de nouvelles formes de carburant, des carburants que les consommateurs pourraient utiliser dans leurs véhicules de tous les jours. La F1 espère pouvoir commercialiser ce carburant utilisé par les monoplaces. On ne sait pas vraiment sous quelle forme encore, peut-être que ce sera un dérivé. Mais derrière ça, il y a bien évidemment un sacré enjeu commercial. Le carburant mis à part, c'est le groupe moteur qui va sensiblement évoluer. La première chose à noter, c'est qu'il utilisera beaucoup plus d'énergie électrique. Le système hybride actuel, qui génère environ 120 kW, passera à une capacité de 350 kW. Et ça signifie donc que la puissance électrique du moteur aura un poids prépondérant par rapport à la puissance totale. Et avec tout ça, le MGUH de son côté est totalement banni du système. Ce nouveau groupe moteur va augmenter significativement la performance du système de récupération d'énergie. Pour faire simple, ces moteurs nouvelle génération réussissent à stocker l'énergie perdue à certains moments de la course, au freinage par exemple, pour la réutiliser plus tard. En clair, l'efficacité énergétique de la monoplace est sensiblement renforcée. Et qui dit un moteur plus efficace, dit un impact environnemental réduit. En plus de ça, les moteurs consommeront beaucoup moins. En 2013, 160 kg de carburant ont été utilisés par une voiture lors d'une course. En 2020, c'est passé à 100 kg. Et en 2026, la F1 vise à ce que chaque voiture utilise seulement 70 kg de carburant. Malgré ça, ils espèrent que le moteur restera suffisamment puissant, à peu près 1000 chevaux, et qu'il sera plus bruyant que l'actuel. Un dernier aspect à évoquer sur le moteur, c'est la sécurité. Le MGUK est intégré au châssis, et tous les composants électroniques se trouvent au niveau de la cellule de survie du pilote, ce qui est censé rendre la voiture moins dangereuse. Enfin, pour terminer sur l'aspect écologie, la F1 souhaite accentuer ses efforts avec ses partenaires pour réduire les émissions carbone au maximum. Par exemple, elle tente un regroupement des courses par zone géographique. On le voit avec les 5 premières courses de l'année cette saison qui sont en Asie-Océanie. À part ça, certains grands prix comme celui d'Autriche utilisent exclusivement des énergies renouvelables. Et ils planchent pour introduire toujours plus d'innovations durables. Est-ce que c'est suffisant? Je ne sais pas. Un groupe comme la F1 a toujours moyen de faire plus. Mais leur communication autour du sujet est en tout cas très élaborée. Et c'est clair que c'est un atout de poids pour attirer de nouveaux partenaires et investisseurs. Car oui, derrière ces nouvelles réglementations, il y a aussi un objectif financier, vous vous en doutez. Liberty Media et la FIA ont réussi à attirer de nouveaux grands noms de l'industrie automobile, et qui vont offrir une visibilité supplémentaire au championnat. Je pense bien sûr à Audi, qui ne se serait pas lancé sans ces nouvelles réglementations moteurs, ou encore General Motors, qui sera sans doute amené à rejoindre la grille d'ici à 2028. Je pourrais aussi vous parler de Honda, qui devait quitter la Formule 1 il y a quelques saisons, je le rappelle. Mais ils ont fait un gros pas en arrière grâce à ces nouveaux règlements. Ils ont jugé que les efforts de Liberty Media et de la FIA en matière d'écologie peuvent être bénéfiques pour leur propre image de marque. Et c'est exactement pour cette raison qu'ils accompagneront Aston Martin en 2026. Sans parler bien sûr de toutes les retombées économiques liées au sport. En plus de ça, le groupe moteur aura à partir de 2026 son propre budget plafonné. Il devrait être moins cher à produire qu'aujourd'hui, ce qui peut également encourager une certaine innovation. Mais aujourd'hui, les futures modifications apportées sur le groupe moteur semblent perturber pas mal de monde. Christian Horner notamment a peur que les pilotes soient obligés de faire de la récupération d'énergie tout le temps, ce qui pour lui changerait radicalement l'essence même de la Formule 1. Même constat chez Max Verstappen, qui s'imagine déjà faire de la récupération d'énergie à chaque fin de ligne droite, ce qui pour lui est complètement insensé. Et je le comprends, parce que dans ce scénario, il n'atteindrait jamais la vitesse maximale que sa F1 peut normalement générer. D'ailleurs, il a peur qu'on se retrouve dans un championnat où c'est celui qui a le moteur le plus performant qui sera le plus fort, ce qui mettrait tout l'aspect aérodynamique au second plan. Ce qui est criant, c'est que ces règlements sont loin d'être parfaits. Mike Rack et Fred Vasseur, par exemple, ont laissé entendre qu'ils aimeraient proposer des ajustements au règlement. C'est tout de même peu probable que ça change d'ici à 2026, sauf si la FIA s'aperçoit qu'ils ont fait une grosse erreur. Enfin, le très expérimenté Adrian Newey est lui assez inquiet quant à cette nouvelle formule, estimant que les personnes qui ont créé ces nouvelles réglementations n'ont pas vraiment pensé à l'intégration sur le châssis. En clair, ça va être compliqué de trouver l'équilibre entre performance, puissance et fiabilité. La monoplace de 2026 devrait ressembler à peu près à ça. Selon Nicolas Tombazis, le directeur technique de la FIA, la voiture devrait perdre 40 cm de longueur, 10 cm de largeur et peser jusqu'à 50 kg de moins qu'aujourd'hui. Les secrets de ce régime minceur se trouvent bien entendu sur le moteur, qui perd des composants, mais également sur d'autres zones de la voiture, comme les pneus par exemple, qu'il espère pouvoir faire passer à 16 pouces au lieu de 18 aujourd'hui. D'un point de vue aérodynamique, la FIA voit la F1 version 2026 comme une évolution du concept actuel. L'effet de sol est toujours là, au grand dam de Mercedes, et on ne devrait donc pas assister à un choc technologique de ce point de vue-là. Mais l'objectif de ces réglementations doit par ailleurs permettre un meilleur suivi entre les monoplaces, et davantage de dépassements. Nicolas Tombazis estime que les règlements actuels ont des lacunes au niveau du flux d'air, ce qui perturbe l'appui aérodynamique de la voiture derrière et rend les dépassements compliqués. Là, on compte beaucoup trop sur le DRS à ses yeux, et donc les règlements de 2026 doivent permettre de réduire ça. Pour ce faire, il espère réduire la traînée aérodynamique dans le peloton. Mais le problème, c'est que ça pourrait réduire le temps au tour. Tombazis a dit que même s'il venait à perdre 5 secondes au tour, ce ne serait pas un problème pour lui. Mais ça remet fondamentalement en question l'essence même de la Formule 1. Les voitures de 2026 seront donc innovantes, mais tout de même développées avec une ligne directrice proche de celle actuelle. Moi les amis, je me pose une question. Est-ce que Red Bull ne serait pas déjà en train de développer la monoplace de 2026? Parce qu'entre nous, il pourrait rouler avec la voiture de l'an dernier qu'il serait toujours largement en tête du classement. Et bien pour éviter une ère de domination comme celle-ci, la FIA a un plan. Et oui, une solution pour bloquer les idées géniales d'Adrian Newey, Pierre Wacher et tous les autres ingénieurs de Red Bull. Ils ont imposé des restrictions de développement, qui vont handicaper les écuries qui souhaiteraient tout plaquer cette année pour se concentrer sur 2026. Alpine et Sauber, on vous voit. Premièrement, les écuries ne sont pas autorisées à développer leur voiture avant le 1er janvier 2025. Rien, nada, que dalle, sauf quelques exceptions comme le système de freinage et bien sûr le groupe moteur. Là, aucune restriction ne s'applique, et tout le monde est déjà au charbon. Deuxièmement, le développement en soufflerie et les simulations CFD sont très surveillés. Du 1er décembre 2023 au 1er janvier 2025, les travaux en soufflerie ne pourront se faire qu'avec un modèle conforme aux réglementations techniques de cette période. Et c'est exactement pareil pour les simulations CFD. Passé ces dates, là oui, tout le monde est autorisé à bosser sur la monoplace de 2026. La FIA souhaite empêcher les équipes de développer leur voiture de manière trop précoce. En 2024, une écurie ne peut pas dépenser son argent alloué à la saison actuelle pour développer la voiture de 2026. Et ça va vers un objectif d'égalité des chances, encore une fois. Même si au final, la différence structurelle entre deux écuries comme Ferrari et Williams est tellement importante que ça ne résoudra pas tous les problèmes. Pour terminer cette vidéo, j'aimerais avoir un mot rapide sur les pilotes et les écuries. Nous sommes quasiment certains de voir Fernando Alonso, Max Verstappen, Lewis Hamilton, Charles Leclerc ou encore Lando Norris et Oscar Piastri sur la grille. C'est bien parti pour Alex Albon, Carlos Sainz, George Russell, Yuki Tsunoda, sans doute Esteban Ocon et Pierre Gasly aussi, puis bon, Lance Stroll, pas besoin d'en parler. Pour le reste, il y a plus de doutes, et beaucoup imaginent déjà Oliver Mann et Kimi Antonelli sur la grille à ce moment-là. En ce qui concerne les écuries, pas de changement si ce n'est Sauber qui deviendra Audi. Ça reste à voir si les Racing Bulls garderont cette identité aussi. Si un sponsor offre plus d'argent, je pense que ça pourrait les amener à changer de nom. Andretti fait tout son possible pour rejoindre la grille à ce moment-là, mais ils sont bloqués par Stefano Domenicali et les autres équipes pour l'instant. Donc pour eux, l'objectif est désormais 2028. C'est terminé pour cette vidéo les amis, merci beaucoup de l'avoir regardé. Donnez-moi votre avis en commentaire sur cette future saison 2026. Est-ce que vous êtes plutôt impatient, enthousiaste, ou plus pessimiste peut-être? Moi je lirai tous vos commentaires très attentivement. Avant de se quitter, pensez à liker cette vidéo et à vous abonner pour me donner un maximum de soutien et de visibilité. Et nous on va se retrouver très rapidement pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine!
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences, whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, I'm Guy Raz, and on my show, Wisdom from the Top, I talk with CEOs and business leaders about the toughest challenges of their careers.
There's lots of ways to measure success.
Sometimes a company has to bet against itself.
We wanted to set ourselves apart by having a point of view.
Businesses really impact people's lives in pretty fundamental ways.
On Wisdom from the Top, some of the greatest business leaders of our time share their intimate stories of leadership, innovation, and transformation. Stories you won't hear anywhere else. Check out Wisdom from the Top only on Luminary. Now, back to your show.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.